qui est dit dans cette sorte d'igloo y reste. Une phrase d'un médecin revient à la surface. Au début, on boit pour se sentir bien. Ensuite, on boit pour ne pas se sentir mal. Aujourd'hui, je vais très bien, et c'est grâce à eux. Balavoine avait dit à Mitterrand, les toxicos, on les met en tôle sans les soigner. Un alcoolique dans une maison psychiatrique, c'est à peu près pareil. On rentre bourré, on ressort drogué. Où est la différence, après tout? Rémi, Annie, j'étais très content de vous entendre à nouveau. Je ne sais pas si ça marchera, mais on fera tout pour vous aider. Courage, je suis de tout cœur avec vous. Yann, d'un petit village de Haute-Marne.
Bonjour tout le monde. Voilà, moi, ça fait 2 jours que je suis un petit peu concernée par l'émission. Enfin, un peu beaucoup, d'ailleurs. Et je voulais faire passer tous ceux qui sont dans ce truc qui est bien dur, hein. La phrase de la copine qui m'a prêté son sourire pour aller aux Alcooliques Anonymes. Si je bois un dé à coudre, je vide le bar. Moi, ça me plaît comme petite piqûre de rappel, alors si ça peut servir à d'autres. Mais je lève mon verre d'eau, tous ces guerriers que nous sommes. C'était Marie de Bayonne.
Bonjour, je m'appelle Hilaire. J'ai œuvré il y a 7 ans, jour pour jour, au calme. Alcool veut dire maquillage en arabe. Qu'est-ce qu'on vient maquiller? Chacun de nous, on promène nos casseroles, plus ou moins lustrées, plus ou moins rouillé. Un jour, on peut avoir besoin d'un médicament. Alors, c'est l'alcool qui vient en guise de béquille. L'alcool, une grosse béquille qui nous aide à tenir le coup. Jusqu'au jour où cette molécule chimique, la THP, tétrahydroxypapaveroline, prend le dessus sur la fabrication naturelle de notre corps de nos molécules de bonheur. C'est ainsi que s'installe la dépendance. Le calme œuvre, travaille, permet aux personnes accueillies de reprendre possession d'eux-mêmes, de leur être, de refabriquer naturellement, d'apprendre à refabriquer naturellement ces molécules de bonheur.
Bonjour. Samedi 23 juin à 11h, le comité des parents d'élèves en colère de l'école Henri Matisse à Lavarenne, dans le Maine-et-Loire, organise un grand rassemblement devant l'école pour manifester contre la suppression de la 6e classe. Madame l'inspectrice d'académie a utilisé un subterfuge pour transformer notre école rurale en école de zone urbaine, alors que Lavarenne compte 1700 habitants et est située à 27 km de Nantes. On perd donc une classe alors que nos effectifs augmentent. Puisque l'inspection académique nous mène en bateau, nous avons décidé de la prendre au mot en installant un dracard devant l'école ce samedi 23 juin à 11h et en s'équipant de bouées, gilets de sauvetage, maillots de bain, etc. Rendez-vous donc samedi 23 juin à 11h devant l'école publique Henri Matisse de Lavarenne, les Hautes-Cartel, à Lavarenne dans le Maine-et-Loire.
Allô Daniel, l'éducateur de l'éducation nationale, t'envoie le bonjour à toi et à tous les amis combattants. Et pour saluer tout ça, on va faire du bruit, allez-y, ouais! Merci Daniel de passer ce message au niveau de toute la France pour faire savoir à quel point on ne veut plus d'enfants sacrifiés à l'école et que tout reparte. Alors pour l'avenir, hip hip hip.
Bon, les socialistes, là, qu'est-ce qui se passe? On vous voit parader là, dans les médias pour un perchoir à l'Assemblée nationale. Non, mais attendez, il y a d'autres problèmes que ça en France, quand même. Va falloir vous bouger le cul. Je vais commencer à regretter d'avoir voté socialiste au second tour. Certes, parce que j'ai voté Mélenchon au premier tour. Donc là, il faut vous remuer, là, hein. Daniel, j'attends ton reportage sur la Libye. Là, je vais me régaler, j'espère. Allez, salut à tous. C'était Chantal de Paris.
Merci Chantal, merci à toutes et à tous. La Libye, on y part lundi. Libye entre l'espoir et le chaos, ce sera à partir de lundi. Mais aujourd'hui, on a une chose extrêmement importante à faire, chers AMG. Vraiment quelque chose d'important, là, je vous demande de m'écouter quelques secondes. Il faut réconcilier les Français avec leurs élites. Ça va très très mal, ça va de mal en pis. On l'entend quotidiennement dans cette émission, mais pas seulement maintenant. Les Français n'aiment pas leurs élites. Et on a pris le cas bien malheureux de Maurice Lévy. Maurice Lévy, vous le connaissez ? Vous ne connaissez pas ? Ah, ça montre que vous êtes fâché avec vos élites. Maurice Lévy, c'est le patron de Publicis, c'est le roi de la com, c'est Momo. Et pour avoir touché un petit bonus, un malheureux petit bonus de juste 16 millions d'euros, en plus de ses rémunérations, ses justes rémunérations, voilà qu'il fait l'objet d'une véritable cabale, d'un véritable lynchage. Lui, le puissant actionnaire des régies publicitaires des médias, Libération, Le Monde, etc. Le détenteur d'énormes budgets Orange, Renault, Nestlé, L'Oréal, Carrefour, Sanofi, etc. Enfin, c'est-à-dire Publicis. Lui, le maître de cérémonie de Davos, le conseiller de Nicolas Sarkozy. Et puis, surtout, le président de la FEP. Eh oui, le lobby des grands patrons. Voilà, ça s'est mal fini parce qu'il y a, cette pression, cette véritable cabale. Le voilà victime d'un odieux lynchage. Et notre souci désormais, c'est de vous réconcilier avec ces élites auxquelles vous devez tout, qu'elles soient des élites intellectuelles, des élites économiques ou des élites politiques. C'est notre sujet du jour. Nous avons voulu défendre ces opprimés, et en l'occurrence cet opprimé-là, Maurice Lévy, qui a eu le courage de le dire et de vous le dire. En France, on condamne la réussite. Maurice le vaut bien, ce sera jusqu'à 16h dans la base si j'y suis, mais auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, salut toute l'équipe. Nous là, on est tous réunis sous le soleil de Nice pour le congrès de la médecine générale subventionné par McDo, par Coca, par tous les labos pharmaceutiques. Et puis sous l'égide de notre haute autorité de santé, notre ministère de la Santé. Donc voilà, on est là tous réunis. Le mouvement de désaliénation des médecins, et puis on essaye de foutre un peu la merde depuis hier et jusqu'à ce soir, pour dire que c'est absurde, que c'est toujours la même chose, et puis pour essayer de discuter un peu avec les médecins et de voir ce qu'ils en pensent et de voir comment on pourrait faire autrement. Bonne fin de journée.
Bonjour, suite à l'inculpation de trois syndicalistes de la Confédération nationale du travail lors d'une action contre la stigmatisation des chômeurs à Pôle emploi en mars dernier à Paris, nous vous appelons à participer à un concert de soutien qui aura lieu le samedi 30 juin à 20h au 33 rue des Vignoles, Paris 20e, avec notamment le groupe Zone d'Expression Populaire. L'entrée est à prix libre et donc merci à vous de venir.
Salut à tous, c'est Frédéric du collectif pour un audit citoyen de la dette publique. On organise samedi 23 juin à Paris les assises de l'audit citoyen. Alors à cette occasion, il y aura deux grands débats qui seront organisés à la salle ENAF de la Bourse du Travail, donc c'est Métro République. Le premier, ce sera sur la crise européenne avec les économistes atterrés qui présenteront leur nouveau bouquin « L'Europe maltraitée ». Le second, ce sera sur les perspectives de la mobilisation d'audit citoyen, comment mettre la pression sur le gouvernement, comment faire l'audit des collectivités locales et que faire face à la crise européenne. Et ces deux débats seront suivis à 18h à la rotonde de Stalingrad par un grand apéritif meeting contre l'austérité et en solidarité avec la Grèce, avec Statis Kouvelakis, Frédéric Lordon, Aurélie Trouvé, Pierre Calfa et les syndicats CGT, FSU, Solidaires, pour bien faire savoir qu'en Grèce comme en France, l'austérité, le pacte budgétaire, on n'en veut pas. Voilà, venez nombreux.
Le journal de l'écho sur France Info. On commence par une année record pour Publicis.
Oui, le troisième groupe mondial de publicité affiche un bénéfice net de 600 millions d'euros en hausse de 14% par rapport à 2010. 2012 s'annonce bien. Le chiffre d'affaires a augmenté de 7,3%. Il frôle les 6 milliards d'euros.
Ça m'inspire énormément, mais énormément de respect pour les patrons qui sont à la tête de l'agence. Maurice Lévy, qui est un homme et un patron que j'admire, qui a fait un boulot extraordinaire, il a fait une gaffe gigantesque.
En pleine campagne électorale, Publicis annonce qu'elle va verser à son patron la bagatelle de 16 millions d'euros, en plus de son salaire variable. Il faut rappeler que ce patron, c'est Maurice Lévy, qui faisait justement partie des grands patrons qui s'étaient déclarés volontaires pour payer plus d'impôts à l'automne.
J'aime pas trop qu'on me critique mon patron, ou qu'on me critique l'agence, ou voilà.
Je suis bien au McDonald's, place de la République.
Oui.
Oui, bonjour. C'est pour passer une très très grosse commande en fait. C'est pour un client au nom de Maurice Villet. J'ai un budget de 16 millions d'euros.
N'importe quoi. Je pense pas que Maurice, je sais pas quoi, va acheter pour 16 millions d'euros de.
Bah justement, j'aurais aimé savoir ce qu'il pouvait avoir en termes de. Il a combien votre menu Big Mac ?
Donc, on récapitule. Pas de salaire fixe, mais un variable pouvant atteindre 5 millions, plus des actions, plus des stocks options, plus de 6 millions d'euros l'année dernière, plus ce bonus exceptionnel de 16 millions, sans oublier l'indemnité de départ, déjà prévue pour 2017, qui dépasse les 5 millions d'euros. Sur tout ça, Maurice Lévy est contre la nouvelle tranche d'imposition à 75% préconisée par François Hollande.
Parce que nous, les Français, on est toujours en extase devant des grands hommes comme ça. Moi, je dis que c'est un grand homme.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Gaylor, Vanvie, Merche. Maurice le vaut bien.
Flight number 2, arriving from New York.
Là, on est devant le siège de Publicis, au 131-133 avenue des Champs-Élysées, sur la plus belle avenue du monde. Et ce matin, les employés, à l'appel des syndicats, mais aussi de collectifs comme Sauvons les Riches, se réunissent. C'est une grande fête, c'est un apéro en fait qui a été créé ici par les employés de Publicis et différents collectifs. Mais pour inviter Maurice Lévy, le patron de Publicis, le PDG, à venir boire un verre, à trinquer. Il y a une petite table là-bas avec du champagne, des verres, voilà, sous une fine pluie. Et il y a des cotillons qui sont lancés en l'air, des petites tracts imprimés où c'est marqué patron Publicis, 16 millions d'euros. Puis il y a également des billets, des faux billets en papier qui volent. Des billets de 10 000 euros.
Ah, vous l'entendez, hein ? On vous l'a dit en commençant. Écoutez bien. Voilà. Les Français condamnent la réussite. Maurice Lévy, c'est vraiment l'exemple même de la réussite. Voilà, écoutez. Et oui, pendant que ces braves gens, soyons pas méprisants, ces braves gens hurlent dans la rue, hurlent leur envie, leur jalousie foncière, voilà ce que Maurice entend dans ses écouteurs. Parce que c'est pas le tout d'être l'un des premiers patrons français, d'être partout, d'être le visiteur du soir de Nicolas Sarkozy, le maître d'œuvre de Davos, le président de l'AFEP, l'Association française des entreprises privées. Il faut aussi avoir du goût pour l'art, pour la peinture. Maurice Lévy est un passionné de peinture et évidemment, bien sûr, de belle musique. Mais alors, ça l'empêche peut-être de comprendre un certain nombre de choses sur le monde, sur la vie, mais tout près de lui, sur ses propres salariés. Et c'est un petit peu dommage, quand on est le roi de la com, de louper sa propre com. À moins que les choses aient un peu changé. L'alternance, ça vous dit quelque chose, l'alternance? Les gars, il va falloir la jouer plus discrète. Hein? Fini les paillettes, le bling-bling, le vernis, l'exhibition, etc. Il va falloir... Non. Il va falloir la jouer à l'ancienne, vous savez, le vieil argent. Quand ça se voit pas, quand c'est discret.
rue, derrière les murs. Habillez-vous d'une façon ordinaire. Un jean avec des trous, voilà, ça c'est une bonne idée. Ça fait ouvrier, ça fait modeste, ça fait normal. Redevenez normal. Ils sont furieux. Mais soyez rassurés, aujourd'hui, il n'y a plus de communistes en France. Ouais, non, il n'y a plus de communistes en France. Ça, c'est ce que François Hollande a dit au Guardian, vous vous souvenez de ça? Et il a ajouté, François Hollande, au même Guardian, le journal britannique, « La gauche a été au pouvoir pendant 15 ans, au cours desquels nous avons libéralisé l'économie et ouvert les marchés à la finance et aux privatisations. Il n'y a rien à craindre !» a dit François Hollande à La City et au journal de centre-gauche Le Guardian. Il n'y a rien à craindre, simplement il faut changer un petit peu les choses, c'est aller trop loin, le fouquet, c'est... Écoutez, il faut changer ça. Or, voilà qu'il y a une victime là-dedans, c'est Momo, c'est Maurice, le roi de la com, qui lui date de cette époque-là, représente cette époque-là, d'une façon donc... On a demandé à Momo de la fermer et de se faire oublier pendant un certain temps. Voilà. Et c'est ce que nous avons suivi. Et c'est ce qui nous a passionnés, ce qui nous a intéressés avec Gaylor van Wimmersch. Et surtout, ce qui nous tient à cœur, il faut bien le dire, c'est de vous réconcilier avec vos élites. Parce que pour l'instant, il y a une disgrâce, enfin, une discrétion, disons, de Maurice Lévy qui lui est demandé et qu'il assume, bien évidemment. Mais n'oubliez pas que c'est un grand homme. Et sans lui, sans des gens comme celui-là, comme nos grands patrons, comme nos riches, nous ne serions rien, vous et moi. Maurice le vaut bien, c'est jusqu'à 16h, c'est la basse décision.
Les riches... Parle de ceux-là qui gagnent autant de fric, les riches. Tant que 10 trésors ou 200 fois le SMIC, les riches. Ils font les jolies femmes de la pub L'Oréal, les riches. Parce que je le vaux bien pour la femme idéale, les riches. Bettencourt milliardaire est-elle féministe, les riches. Nous protégerait-elle contre les communistes, les riches. Laurence Parizeau remporte la médaille, les riches. Et un seul ennemi, le code du travail, les riches. Un ouvrier se tait, il bosse et fait du chiffre, les riches. Il gardera les miettes, mais pourvu qu'on s'en pifre. Les riches s'intéressent aux médias, la télé, les journaux, les riches. Regardez par exemple Lagardère ou Dassault, les riches. Lorsque les marchands d'armes deviennent journalistes, les riches nous protègent contre les communistes, les riches. Les riches défendent le pétrole comme les droits de l'homme, les riches. Et qui travaillent pour Shell, British Petroleum, les riches. L'important au final, c'est bien le bénéfice, les riches. L'esclavage est partout, mais le fric est en Suisse. Les riches, dictature ou business, chaque chose profite, les riches. Total en Birmanie, ben c'est la junte qui invite, les riches. On peut faire du fric même avec des fascistes, les riches.
Monsieur Benoît Roger Vasselin, une petite délégation sera reçue par le directeur des ressources humaines du groupe Publicis.
Ouais, on va les faire plier.
Bonjour Eric, on va se mettre un petit peu là parce que sinon on va être coincé. Bon, on va monter les marches. Voilà, là on est bien, on est juste devant l'entrée.
Voilà, du 133 qui est bien gardé par quelques policiers en civil.
Ah oui, j'avais pas vu.
Oui.
Là, j'ai le reflet de la vitre, si je me penche, effectivement, il y a...
pas mal de gens avec des talkie-walkie qui sont en fait des policiers en civil.
D'accord, c'est pas des membres de la sécurité de Publicis ?
Non, non, il y a aussi des membres de la sécurité, mais eux n'ont pas normalement de talkie-walkie.
Alors vous faites quoi au sein de Publicis ?
Moi, je suis depuis 10 ans dans le groupe, je suis créatif, et je suis en même temps élu CGT, et délégué du personnel.
Alors là, vous avez un petit verre de champagne que vous avez presque vidé. Presque. C'est l'apéro, il est 13h30. On est sur les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde, devant le siège de Publicis. Vous trinquez à quoi ?
Alors je trinque au faramineux bonus qui a été versé à notre patron. En tant que salarié de Publicis, je trinque à sa santé. Et je lui souhaite bonne chance avec ces 16 millions qu'il vient de toucher. Mais j'aimerais quand même attirer son attention sur le fait que parmi les salariés du groupe Publicis, il y a énormément de gens qui n'ont pas eu d'augmentation depuis des années et des années. On peut même dire que c'est l'écrasante majorité. Et pour ceux qui ont eu quelques augmentations à certains moments, on peut dire que ce sont des cacahuètes, parce que je peux donner quelques exemples. J'ai des collègues de bureau cette année qui ont touché 100 euros bruts après 5 ans sans augmentation. Le groupe Publicis, qui engrange quand même 600 millions d'euros de bénéfices par an, a eu la malhonnêteté de verser une prime dite Sarkozy inférieure à la moyenne du CAC 40 cette année. La prime Sarkozy, c'était, vous savez, la prime qui était réservée aux entreprises qui avaient augmenté les dividendes de ses actionnaires. On a négocié et on a malheureusement obtenu une somme, on va dire dérisoire au vu des bénéfices du groupe, puisqu'on a obtenu 350 euros par salarié.
Alors Eric, moi ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a là quelqu'un qui a fondé un empire de la publicité, quelqu'un qui a généré de l'emploi, qui a fait marcher l'économie française pendant des années, et aujourd'hui vous lui tapez sur les doigts.
Non, on ne lui tape pas sur les doigts, on lui dit simplement « Maurice ». Rappelle-toi que tu n'es pas le seul à pouvoir bénéficier des fruits de cette croissance extraordinaire. Il y a également des salariés qui ont contribué et il ne faudrait peut-être pas les oublier ceux-là parce qu'eux aussi contribuent à la richesse du groupe.
Moi on m'a dit que c'était idyllique, hein. Avant que je vienne ici ce matin, on m'a dit que c'était une entreprise modèle Publicis. Jamais j'ai entendu parler de lutte sociale chez Publicis.
Non, parce que les luttes sociales sont cachées et effectivement assez peu de, on va dire, de combativité, parce que déjà les syndicats sont des gens peu fréquentables chez Publicis, parce qu'on considère que c'est une entreprise un petit peu au-dessus de la mêlée, qui est justement un modèle social, ce qui n'est pas le cas, et qu'on n'a pas besoin forcément des syndicats pour défendre les salariés.
Alors au niveau des conditions de travail,
Les conditions de travail, elles sont un petit peu comme dans toutes les entreprises de la publicité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'horaire, on est capable de vous dire de travailler un week-end s'il le faut, de finir à 11h s'il le faut, sans aucune compensation. Il faut savoir aussi que dans ce groupe, à certaines périodes de l'année, il y a jusqu'à 35% des effectifs qui sont constitués de stagiaires.
C'est bien ça les stagiaires.
Oui, c'est bien, c'est très bien.
C'est la jeunesse qui arrive.
C'est la jeunesse qui arrive jusque dans une certaine proportion, c'est-à-dire qu'on peut se dire qu'une entreprise normale peut tourner avec 10% de stagiaires. Quand on est né à des taux de 35%, il faut peut-être s'alarmer.
Pour revenir à la rémunération de votre patron, de Maurice Lévy, qu'est-ce qui vous gêne là-dedans ?
Ce qui a profondément choqué les salariés, c'est qu'on s'est rendu compte que, en fait, cette prime était versée à un moment où ça correspondait à une période électorale où Maurice Lévy, en l'occurrence, risquait d'être taxé à 75% par les projets de M. Hollande. Et c'est ce qui a été profondément choquant, c'est qu'en fait, il s'est empressé de les toucher pour pouvoir échapper à cet impôt.
Mais alors, également, moi, j'ai le souvenir d'un Maurice Lévy qui avait fait une tribune, pas seul, avec d'autres patrons du CAC 40.
Ça 16, y a... justement, le groupe des 16, comme on l'appelle.
C'était okay. 16 grands patrons qui avaient fait une tribune dans le Nouvel Observateur, si ma mémoire est bonne, je crois.
Qui s'appelait Taxez-nous plus et qui invitait l'État, en fait, à taxer provisoirement les plus grosses fortunes en France pour aider à combler la dette du pays. On a l'impression qu'il y a une espèce de schizophrénie qui a opéré et qu'au bout de quelques mois, eh ben, il s'est peut-être rendu compte que ça valait peut-être plus le coup de toucher tout de suite les 16 millions que d'en donner trop à l'État et que du coup, il avait un peu oublié que la dette du pays était importante et qu'il fallait y contribuer.
En août dernier, vous avez fait partie de ces patrons qui ont publiquement dit vouloir payer plus d'impôts, qui trouvent ça normal en période de crise, et ça on ne peut pas le contester. Vous gagnez beaucoup d'argent et vous acceptez d'en donner davantage.
RTL.
Pour aider la France, en gros.
14 avril 2012.
Et puis vous êtes vent debout contre la proposition de François Hollande de taxer à 75% les revenus annuels de plus d'un million d'euros. C'est cette année donc que vous allez toucher votre bonus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette contradiction ?
Ce n'est pas une contradiction.
Maurice Lévy.
J'ai appelé, c'est moi qui ai lancé cet appel. Mm-hmm. Je l'ai écrit d'ailleurs le 13 août au matin. J'ai appelé à ce qu'il y ait des contributions supplémentaires des gens qui sont... bien lotis, qui ont bénéficié de la vie, qui ont réussi quelque chose, et je pense que c'est normal qu'ils contribuent davantage. Et donc, je suis d'accord pour aller même au-delà de ce qui a été prévu par les textes d'août. Et puis, il y a la proposition à 75%. 75 plus CRDS plus CSG,
83%,
ça fait 80 et quelques pourcents, plus un petit peu d'ISF, ça fait 95% à peu près. Ça veut dire qu'il reste 5%. Je suis favorable à ce qu'on paye davantage et je suis prêt à le faire et je pense que c'est une bonne chose que nous le fassions. Je suis opposé à la confiscation des fruits du travail.
Donc voilà sur la ligne 3 du métro parisien, une ligne qui traverse Paris du nord-ouest à l'est, plein est. Et on a rendez-vous à la station Bourse en plein cœur de Paris pour rencontrer des employés du groupe Publicis, du groupe de communication et de pub Publicis, dirigé par Maurice Lévy. Voilà, on est dans le quartier Bourse, dans le premier arrondissement de Paris. Et là, on se dirige vers une des filiales de Publicis qui s'appelle Publicis Consultant. Une entreprise prospère, une entreprise qui, sous la direction de Maurice Lévy, a multiplié par 10 son chiffre d'affaires, le faisant passer de 560 millions d'euros à 5,8 milliards. Et ça, en seulement 16 années. Mais également, qui a multiplié ses bénéfices par 26, passant de 23 millions d'euros à 600 millions d'euros. On peut aussi citer une implantation qui est passée de 15 pays seulement il y a 16 ans, il y a une vingtaine d'années, à plus de 100 pays aujourd'hui. Allez, encore deux autres chiffres. Depuis que Maurice Lévy a pris la tête de l'entreprise en 1996, le nombre d'employés est passé de 6 000 à 50 000 collaborateurs dans le monde entier. Et un dernier chiffre pour la route, la capitalisation boursière de l'entreprise a été multipliée par 20 en 16 ans seulement. Voilà, ça vous donne un petit peu une aperçu de l'essor de cette entreprise sous la direction de Maurice Lévy, une entreprise qui est devenue une championne mondiale de la communication et de la publicité.
Comment ça va, ça ? Et voilà.
Votre bureau ici.
Oui.
Tout en open space.
Oui.
Je vous laisse vous présenter vous-même.
Bonjour, je suis Micheline, je suis chez Publicis depuis 34 ans. Je suis à l'agence depuis février 76, d'une petite PME, allons-nous dire, française. Maintenant, nous sommes le troisième groupe mondial. Donc, ça m'inspire énormément de respect pour les patrons qui sont à la tête de l'agence. Je dis les patrons parce que j'ai eu la chance, l'immense fierté de connaître Monsieur Marcel Bleustein-Blanchet.
Qui est, il faut le rappeler,
le fondateur de l'agence Publicis. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de phénoménal, hein, puisque à l'époque, j'étais qu'une petite secrétaire. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer Maurice Lévy lors d'un dîner ou d'une réunion. Pour moi, c'est une chance parce que 54 000 collaborateurs, je ne sais pas si on est beaucoup à l'avoir vu, à qui on a serré la main. Parce que nous, les Français, on est toujours en extase devant des grands hommes comme ça. Moi, je dis que c'est un grand homme.
Vous n'éteignez pas la lumière ? C'est un peu de ça.
Non, c'est ça.
Là, on est dans votre bureau, on ne va pas parler trop fort parce qu'il y a vos collaborateurs qui travaillent. Donc, vous pouvez me décrire un petit peu l'endroit.
Eh ben, je travaille sur un plateau en open space. Je suis entourée de collaboratrices de différents départements.
C'est un endroit assez aéré, assez lumineux.
Ce qui donne un aspect très sympathique quand on arrive à l'agence.
Parce que vous êtes bien, il y a des plantes vertes, etc.
Oui, un très très bel endroit, bien agencé. Ben voilà, les plantes, petit coin, cafetière.
Et là, vous êtes agencé votre coin.
C'est mon coin. Et comme vous pouvez le voir, il y a le président fondateur qui est en photo.
Ah oui, où ça? Ah, alors c'est qui?
Marcel Bestel-Blanchet.
Qui est le président fondateur de Publicis.
Ouais.
Et là, c'est vous à côté, hein?
À côté, absolument.
Vous étiez jeune?
Et oui.
Donc c'est des photos en noir et blanc. On voit, c'est une réception, hein. Il y a des coupes de champagne.
C'était pour me remettre ma médaille après 15 ans d'agence. C'était quelqu'un qui était très proche de ses collaborateurs. Notre père, un tout tous. Voilà, quand j'ai un petit coup de blues, je le regarde et je me dis, ça repart. J'ai pas pris mon badge.
Je vous tiens la porte?
Oui.
En pleine campagne électorale, Publicis annonce qu'elle va verser à son patron la bagatelle de 16 millions d'euros.
RTL.
En plus de son salaire variable.
27 mars 2012.
Et ce au titre de ce qu'on appelle chez Publicis une rémunération différée. Il faut rappeler que ce patron, c'est Maurice Lévy, qui faisait justement partie des grands patrons qui s'étaient déclarés volontaires pour payer plus d'impôts à l'automne.
Donc, on récapitule. Pas de salaire fixe, mais un variable pouvant atteindre 5 millions, plus des actions, plus des stocks options, plus de 6 millions d'euros l'année dernière, plus ce bonus exceptionnel de 16 millions, sans oublier l'indemnité de départ, déjà prévue pour 2017, qui dépasse les 5 millions d'euros. Sur tout ça, Maurice Lévy devrait bien sûr payer des impôts, il sera taxé à 41% et la somme qui lui restera sera soumise à l'impôt sur la fortune, sauf bien sûr s'il trouve quelques petites niches fiscales. Je rappelle que Maurice Lévy est contre la nouvelle tranche d'imposition à 75% préconisée par François Hollande.
Bon, là, il y a eu cette énorme polémique concernant les 16 millions d'euros. Maintenant, il n'a pas volé son argent. Hein. Alors évidemment, ça nous paraît des sommes, nous, complètement surdimensionnées, mais quand on voit qu'un footballeur va gagner pratiquement cette somme-là par an, il est tout seul.
C'est un peu comme si on avait demandé à un footballeur, appelons-le Ronaldo ou appelons-le Zidane, d'être chaque année le meilleur buteur du monde et que les primes de match, il ne les percevrait qu'au bout de 9 ans. C'est ça qui s'est passé. Si j'avais reçu mes primes de match chaque année, personne n'en aurait parlé.
Maurice Lévy fait quand même vivre, entre guillemets, 50 000 personnes. Est-ce que Publicis serait troisième groupe mondial si on n'avait pas eu à la tête un Maurice Lévy? Je ne sais pas.
Je peux vous demander une question indiscrète qu'on ne demande jamais en France. Combien vous gagnez?
Pas beaucoup. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire.
Une petite échelle?
Je vais vous dire entre... Qu'est-ce que je vais vous dire? Entre 2,8 et 3,5, entre 2 800 euros et 3 500 euros. Aujourd'hui, ce qui fait aussi, c'est qu'il y a quand même la crise qui est là, la récession, on ne peut pas s'en cacher. Donc, bien sûr, on aurait aimé que Maurice Lévy prenne tout son argent, mais peut-être faire un geste comme le patron de chez Volkswagen.
Qu'est-ce qu'il a fait, le patron de chez Volkswagen?
En fait, je crois qu'il a dû gagner dans les 12 millions d'euros. Et puis, il a dû donner à chaque collaborateur 1 500 euros.
Vous auriez aimé
Je pense que ça aurait été une prime pour tous les collaborateurs. Étant donné que depuis des années, malgré les crises, malgré même là la récession, le groupe arrive quand même toujours à faire de la croissance. Donc, s'il y avait un petit retour aussi sur les collaborateurs, même le plus petit, il contribue au succès de l'agence, moi je dis. Et voilà, on a quand même cette chance d'appartenir à un énorme groupe. Quand je suis arrivée chez Publicis il y a 34 ans, Publicis pour moi, ça ne me parlait pas trop. Et puis après, c'est ça, dans votre entourage, tu travailles chez Publicis, c'est super. Parce que la publicité, ça fait toujours rêver, c'est comme au cinéma, tout le monde sait que je suis à 400% pour le groupe. Donc ils savent que j'ai commencé, je finirai ma carrière ici.
Ça se traduit par quoi, être à 400% pour le groupe?
Eh bien, j'aime pas trop qu'on me critique mon patron, ou qu'on me critique l'agence, ou voilà. On peut pas critiquer sinon on part. Ça veut dire quoi? On est là pour travailler. À la fin du mois, c'est quand même Publicis qui nous paie. Tout le monde sait que je suis quand même pas accro à Publicis, mais presque.
Ah oui, vous diriez ça, accro à Publicis?
Bah oui, pourquoi pas. Moi, j'aime ma boîte, voilà.
Et si tu aimes ton entreprise, il est grand temps que tu le dises. Si ton patron est ton ami, tu dois faire la fête avec lui. Alors laisse tomber ta cravate, aujourd'hui tout le monde s'éclate. Oh, oh, oh. J'aime ma boîte, oh, oh. J'aime ma boîte, oh, oh. J'aime ma boîte, j'aime ma boîte. Oh, oh, j'aime ma boîte.
Nous voilà dans l'Est parisien. On est à Porte de Montreuil. Et on a rendez-vous à la CGT, au siège de la CGT, la Confédération Générale du Travail.
Alors voilà, voilà l'ambiance, voilà ce que vaut Maurice le vaut bien. Je rappelle, notre démarche avec Gaylor Van Wimerche, c'est de réhabiliter en fait nos élites avec lesquelles... Il y a de l'eau dans le gaz, il faut bien le dire. Les Français n'aiment pas leurs élites. Il faut nous réconcilier avec nos élites, vous réconcilier avec vos élites, toutes les élites intellectuelles, économiques, politiques également. Il y a vraiment un clivage là qui s'est creusé. Et aujourd'hui, on est venu au secours, vous avez compris, de Maurice Lévy, l'extraordinaire patron de Publicis, énorme boîte indispensable, qui a créé des emplois, qui a fait de la croissance, qui est, enfin, indispensable, on ne saurait pas vivre sans ce genre d'entreprise, ni sans ce genre de patron, et qui actuellement, sous prétexte, vous avez compris, d'une prime tout à fait méritée, au même titre que celle attribuée aux footballeurs, il y a eu cette... Et c'est assez curieux quand même que ça intervienne précisément, alors que... Les socialo-communistes viennent d'arriver au pouvoir.
Romain Altman, secrétaire général adjoint d'Infocom CGT, en charge de l'activité syndicale dans le groupe Publicis.
Revenons à la rémunération de Maurice Lévy, une rémunération différée où il a empoché 16 millions d'euros. Quelle réaction vous avez eue ?
Ce qui est scandaleux, c'est pas que Maurice Lévy touche plus que les autres salariés. Ce qui est condamnable, c'est que les répartitions de la richesse n'est pas équitable. C'est-à-dire que les salariés eux-mêmes n'en bénéficient pas, ne serait-ce qu'un peu. Je donne juste ce chiffre-là. Les 16 millions de Maurice Lévy, ça représente quelque chose comme pas loin de 11 500 SMIC. 11 500 SMIC, alors que dans toutes les agences, ne serait-ce qu'en France, il n'y a pas eu une seule augmentation collective à Publicis depuis plus de 5 ans.
Le véritable scandale de cette affaire, il y a le volume et le montant du salaire de Maurice Lévy, mais il y a un autre aspect que d'ailleurs la presse a eu raison de dévoiler, c'est qu'il y a eu des méthodes et des pratiques en vue de faire pression sur des salariés en les invitant soit à signer un texte ou une pétition, soit à leur apporter spontanément, parce que Maurice le vaut bien, un mot de soutien.
Alors là, vous faites allusion à une lettre, une pétition, qui aurait été en fait diffusée par la direction à destination en fait du personnel de Publicis pour soutenir Maurice Lévy et approuver la rémunération du patron.
La réalité des faits, c'est que voilà, plusieurs managers ont tenté et ont fait signer des salariés dans leur bureau en tête à tête en disant tu comprends, il faut défendre Maurice parce qu'il est mal, il est pas bien, le pauvre il vient de toucher de 16 millions d'euros, donc il est vraiment au fond du trou Maurice. Donc toi qui gagnes que 1500 ou 2000 euros, ça serait bien que tu apposes ta signature pour montrer qu'on le soutient, parce que les médias l'attaquent, parce que même François Hollande avait dénoncé cette rémunération. Donc on est vraiment là au cœur d'un système patronale dans sa relation inégale avec ses salariés, pour éviter que le scandale et la com qui a été très mal géré autour des 16 millions d'euros s'amplifie sur la polémique du bonus de Maurice Lévy.
Bonjour madame, je ne sais pas si vous connaissez Maurice Lévy, le publicitaire.
Non, je ne vois pas ce qui en fait.
Maurice Lévy fait la publicité pour le groupe Carrefour, il vient de gagner 16 millions d'euros. Et comme je crois savoir que chez Carrefour il va y avoir peut-être des suppressions d'emplois, c'est ça ?
Ouais.
Vous êtes au courant qu'il y a certainement un plan de licenciement qui va avoir lieu, en tout cas de suppression de postes.
Mm-hmm.
Je me suis dit qu'il pouvait peut-être acheter des emplois chez Carrefour. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense qu'à mon avis, c'est le dernier de ses soucis, quoi.
Il n'y a pas pensé ?
Non.
Bon, et si moi je lui soumets l'idée, j'ai fait le calcul, en fait, il pourrait racheter 500 emplois au SMIC pendant un an. Ça veut dire qu'il sauverait, en gros, un poste sur 10 si on part du principe que 5000 postes vont être supprimés chez Carrefour. C'est pas mal, hein ?
C'est très bien. Si vous pouvez vous écouter, ce serait bien.
3,70€ seulement. Les 3 steaks hachés Carrefour 100% pur bœuf origine France, moins de 5% de matière grasse. On a droit à la qualité, même quand on paye moins cher.
Carrefour.
La qualité
pour tous.
Eh bien, je suis Sophie de Menton, je suis présidente d'un mouvement patronal qui s'appelle Éthique, entreprise à taille humaine, indépendante et de croissance. Je suis chef d'entreprise, je suis membre du Conseil économique, social et environnemental et j'ai de multiples activités autres en tant qu'écrivain en particulier.
Donc on est dans votre bureau ici, dans votre société patronale Éthique. Donc Sophie de Menton, vous avez signé récemment une tribune sur un site internet qui s'appelle « Pour le MEDEF, le changement, ça devrait être aussi maintenant ». On a changé de dirigeant, on a changé de sensibilité politique. Il faut donc que le patronat se trouve de nouveaux émissaires pour pouvoir être en mesure de négocier avec ce gouvernement socialiste. Parce que Maurice Lévy, qui est à la tête de l'AFEP, l'Association française des entreprises privées, et Laurence Parisot, qui est à la tête du MEDEF, se sont disqualifiés récemment.
Maurice Lévy, qui est un homme et un patron que j'admire, qui a fait un boulot extraordinaire, il a fait une gaffe gigantesque, incompréhensible, surtout pour un homme qui fait de la communication et qui est supposé d'ailleurs comprendre parfaitement la sensibilité de l'opinion publique, etc. Je ne vois pas comment, face à un gouvernement qui malheureusement, mais ça va certainement changer, a quand même été très hostile à l'univers des capitalistes, entre guillemets, et du monde de l'entreprise. Comment est-ce que cet homme qui a choqué au moment d'une campagne électorale va être l'interlocuteur des patrons français ? Difficile. Et je pense qu'il comprendra lui-même qu'il faut qu'il donne sa démission, parce que il est formidable, il a 70 ans, il a fait une carrière extraordinaire, et c'est difficile. Et peut-être que donc, faut-il qu'il laisse la place.
Vous voulez dire qu'il est indésirable ?
Je pense qu'il n'est pas le bon interlocuteur pour représenter les patrons aujourd'hui. C'est une question de décence, son attitude. Il a manqué de décence à un moment et tout le monde peut faire une gaffe.
Hermès, bonjour.
Alors oui ?
En fait, je voulais me renseigner pour des ensembles, chez vous, pour hommes. C'est pas pour moi, hein, c'est pour une autre personne. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Hein.
On peut aller très très haut en budget, avec des pièces exceptionnelles où on va avoir des manteaux en vison à 34 000, des blousons en crocodile à 55 000.
Bon, lui, il pourrait en acheter plein. C'est quelqu'un qui vient de gagner beaucoup d'argent, qui vient de gagner 16 millions d'euros.
Bah oui, je me doute bien. Je veux se refaire une belle garde-robe de luxe. Vous me dites, en fonction des disponibilités de monsieur, des envies de monsieur.
Parce que moi, j'ai du mal à lui donner une fourchette pour ses dépenses chez vous. Je sais pas si je dois lui dire autour de 300 000 ou je sais pas.
À 300 000, c'est qu'il aura fait déjà un beau tour du magasin. Oui, ce serait un bon budget, déjà.
Voyage d'Hermès sur les ailes du parfum.
Bonjour, le Club Med vous souhaite la bienvenue.
Club Med Lafayette, c'est là, bonjour.
Je suis gestionnaire de fortune et c'est un client très riche qui voudrait passer du temps, tout frais compris en fait. Il vient d'avoir beaucoup d'argent et il voudrait rester longtemps dans le Club Med.
L'île Maurice, ça pourrait être une belle destination. En même temps, prendre une ville là, il y aura majordome à disposition.
Il y a un chauffeur ?
Tout est possible.
Alors, ça serait quoi les tarifs ?
Par exemple, pour une semaine, c'est 36 000 euros.
36 000 euros la semaine ? Alors, parce que pour rien vous cacher, en fait, c'est quelqu'un qui vient d'avoir 16 millions d'euros.
Oui.
36 000 euros la semaine, vous m'avez dit. Là, par exemple, moi, j'ai calculé, ça ferait 8 ans en pension complète à l'île Maurice, dans la villa. Vous faites des longues périodes ?
Oui, quand vous dites un long séjour.
Ouais, plusieurs années. Est-ce qu'on peut rester plusieurs années dans votre club ?
Oui, tout est possible au Club Med.
Club Med, tous les bonheurs du monde.
Elisabeth Bonaffaire et de celui de monsieur...
Bon, nous voilà... Entrée à l'Assemblée Générale des Actionnaires de Publicis. On est dans un grand auditorium, au siège de Publicis sur les Champs-Élysées. Alors c'est une grande salle avec un écran blanc et le logo de Publicis qui a collé un petit peu partout, derrière la tribune, sur les pupitres. Le logo, c'est un soleil doré et c'est marqué Publicis Group. Voilà, c'est une très belle présentation, qui est très solennelle. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'actionnaires en costume cravate. Et à la tribune, eh bien, il y a Maurice Lévy, le PDG de Publicis, qui est accompagné d'Elisabeth Badinter, la femme de Robert Badinter, féministe, philosophe, et aussi présidente du conseil de surveillance de Publicis.
Je donne maintenant la parole à Maurice Lévy, président du directoire.
Merci Madame la Présidente. Bonjour Mesdames et Messieurs, je suis heureux de vous retrouver et de vous présenter l'année 2011 qui s'est inscrite comme une nouvelle année de croissance pour le groupe Publicis. Nous avons eu un revenu de 5 milliards 816 millions d'euros en augmentation de 7,3%, une marge opérationnelle qui a atteint 931 millions d'euros et un résultat net qui atteint un record pour le groupe Publicis de 600 millions d'euros en augmentation de 14,1%. Nous avons un bilan d'une solidité tout à fait remarquable. Et puis, un élément très important, nous sommes et nous restons une société dont le fonctionnement est marqué par son origine familiale. Ça veut dire que nous faisons attention à tout, à l'aspect humain, à l'aspect social, aux dépenses, et nous sommes extrêmement rigoureux. Je vous remercie et je passe la parole à la présidente du Conseil de surveillance.
Merci Maurice. À présent, vous avez, messieurs et mesdames, la parole et nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.
Alors, numéro 2, oui, s'il vous plaît.
Bonjour monsieur le Président. Je ne suis pas choqué par votre rémunération de 16 millions. Par contre, je voudrais savoir, est-ce que c'est un choix de votre part de rémunérer en différé sous certaines conditions?
Merci monsieur. Sur la rémunération différée, c'est clair que cette rémunération différée fait un montant important et que si elle avait été versée annuellement, je n'aurais pas été le patron le plus payé du CAC 40 et on n'aurait pas fait tout ce bruit autour. C'est une proposition qui m'a été faite par le conseil de surveillance. Et tous les actionnaires autour de la table considéraient qu'il était préférable que je reste. Et pour me retenir, ils ont décidé de prélever une partie de ma rémunération et de la garder pour ne me la donner qu'au bout d'un certain nombre d'années. J'ai accepté. C'est un système qui est vertueux.
Bonjour, monsieur Lévy. Je viens vous voir parce que je suis journaliste à France Inter et malgré
tout. Je suis désolé. Nous sommes dans une réunion d'actionnaires.
Je sais très bien.
Je suis désolé.
Une simple question.
Et vous, les
Est-ce qu'on pourra se voir après dans ce cas-là ?
Selon mon bon vouloir.
Et puisque ça fait un mois que je demande des interviews.
Mais parce que je n'ai pas envie de vous voir, peut-être. Je n'en sais rien. Pour l'instant, mes actionnaires, d'abord, s'il vous plaît.
Une question, par exemple.
Non.
On n'a pas parlé, par exemple, des salariés de Publicis.
Monsieur, s'il vous plaît.
On n'a pas parlé des salariés de Publicis.
S'il vous plaît. Merci. Monsieur.
Bon, comme vous l'avez entendu, Maurice Lévy ne m'a pas laissé poser ma question. Et on vient de me reprendre le micro des mains. Donc là, on est passé au moment clé de cette réunion générale des actionnaires chez Publicis. C'est le vote des actionnaires. Donc une petite musique, comme dans les jeux télévisés. Et les participants ont 12 secondes pour voter pour les différentes résolutions à l'ordre du jour dans cette assemblée générale des actionnaires de Publicis. Ils ont tous à la main, comme dans un jeu télévisé, des petits boîtiers pour dire répondre par oui ou par non.
Le vote est clos. La résolution est adoptée à 99,1%.
Voilà, l'assemblée générale vient de se terminer. Et on va descendre là, à la tribune, solliciter le bon vouloir de Maurice Lévy, comme il me l'a dit tout à l'heure. Voilà, on est devant le podium, là. Il y a plusieurs confrères, journalistes qui l'interviewent. On va essayer de passer.
Bonjour, mon collègue qui est là-bas. En fait.
Non, c'est vrai, je peux pas passer ?
Non, je peux pas passer. C'est ça ? Pourquoi ?
Bon, bah là, je suis bloqué. Alors ça, c'est fort, quoi. Bon, en gros, là, j'ai trois gars autour de moi, trois gars de la sécurité, de Publicis, qui me bloquent le passage et qui veulent m'empêcher d'accéder à la tribune où il y a Maurice Lévy.
Je peux juste demander à la personne pourquoi moi, j'ai pas le droit de faire l'interview ?
Bah, vous pouvez l'appeler, s'il vous plaît. Mes collègues font une interview, moi, je peux pas passer, pourquoi ? Non, il faut que quelqu'un me réponde, quoi. Moi, je peux pas rester là.
Si vous avez raison.
Venir. Bien, finalement, il y a une femme qui était à mes côtés et qui a fait un signe à l'attaché de presse. Je ne sais pas trop ce qu'elle lui a dit, mais apparemment, voilà, on va me laisser passer. Donc c'est bon, je suis devant le podium, pas très loin de Maurice Lévy. Voilà, je vais enfin pouvoir poser une question à Maurice Lévy.
D'accord. Je peux monter ?
Oui. Merci.
la CRDS, de la CSG et des 75%, je ne suis pas sûr qu'il reste quoi que ce soit. Moi, je suis favorable à une augmentation de la pression fiscale, je l'ai dit de manière très nette, et je reste favorable.
Merci.
Merci à vous.
Moi, j'aurais une question sur, justement, l'AFEP. Vous êtes président de l'AFEP, l'Association française des entreprises privées, et justement, au sein de l'AFEP, en ce moment, il y a un petit peu une fronde, non pas contre vous.
Écoutez, posez votre question.
Alors, ma question, c'est justement... Vous-même, vous êtes mis en position défavorable avec cette question de la rémunération. Et donc, la FEB chercherait, le patronat en tout cas, des interlocuteurs, des intermédiaires plus favorables avec le gouvernement.
Désolé, on n'est pas à la FEB, c'est l'Assemblée de publicistes. Donc cette question...
Non, mais je vais répondre à la question.
Oui.
Je vais répondre à la question. Je vais répondre à cette question. Ouais. Il y a un conseil d'administration, vous avez des membres du conseil d'administration, je vous conseille de les appeler, ils vous diront si oui ou non qu'il y ait des gens qui sont en dehors de la FEP, qui sont au MEDEF ou qui sont ailleurs et qui expriment des opinions, c'est la liberté complète. Mais à ma connaissance, je n'ai pas eu une seule remarque venant d'un adhérent de la FEP. Donc c'est tout.
Vous allez rester à la tête de la FEP.
C'est ma réponse. Je n'ai pas eu une seule remarque à ce jour venant d'un adhérent de la FEP. Pas une seule.
Et moi, mon reportage porte sur les salariés de Publicis, notamment, puisque c'est...
Vous posez des questions sur la FEP. Alors arrêtons maintenant. Ça y est,
je ne peux pas vous poser une question sur Publicis.
Il fallait commencer par ça. Laissons, on ne va pas continuer indéfiniment. D'autant plus que moi, je continue mon conseil maintenant. À 13h, on a le conseil qui démarre.
Oui. Ça, c'était leur... de l'Assemblée des actionnaires de Publicis, mais depuis hélas, ben oui, je sais, c'est une triste nouvelle. Soyez courageux, amis auditeurs, amis de là-bas, si j'y suis. Maurice Lévy a démissionné. Voilà, c'est terrible, il a démissionné de la FEP. C'est un petit peu ce que disait Madame de Menton tout à l'heure. Cette démission marque l'échec de l'exposition médiatique qu'avait souhaité donner Maurice Lévy, un lobby patronal jusqu'ici marqué par sa discrétion, voire son secret. Et Maurice Lévy avait été critiqué par nombre de patrons, eux-mêmes, l'été dernier déjà par la publication dans Le Monde d'une tribune dans laquelle il appelait les plus hauts, les plus aisés à payer davantage d'impôts. Voilà, de quoi je me mêle, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc on le voit, le roi de la com s'est planté dans sa com, Maurice Lévy, troisième patron le mieux payé de France en 2011, derrière Bernard Arnault et le patron de L'Oréal, eh bien, a quitté la FEP, il n'a pas du tout quitté son poste, rassurez-vous, ces diverses rémunérations, il touchera ses 16 millions d'euros comme prévu, mais enfin voilà, il a dû démissionner de la FEB. J'espère que ça ne vous gâche pas trop votre vendredi et que vous passerez tout de même, malgré tout, chers AMG, un bon week-end.
Notre patron sur un grand cheval entre par la porte monumentale. Une rumeur parcourt la foule, les investisseurs crient de joie. Les têtes tranchées des concurrents sont exposées sur des pics, tenues par des employés payés au SMIC. Le patron s'est mis sur le côté pour mieux apprécier le défilé. C'est au tour des lieutenants juchés sur des éléphants, et voici des secrétaires sur des ordinateurs super puissants qui font vomir des imprimantes, et les segments de marché ferment la marche dans leurs costumes multicolores. C'est le triomphe du capital, notre patron sur un grand cheval se dit qu'il a fait du bon travail. Il nous fait savoir que tous nos sacrifices ont permis que la courbe grandisse.
La rémunération conditionnelle différée de M. Maurice Lévy a été initialement décidée en 2003. C'était une part de rémunération acquise année après année, mais dont le versement était différé, avec pour objectif qu'il assure la présidence du directoire pour une durée minimale de 7 ans et demi. La convention
initiale... Maurice a remis ses écouteurs et il écoute cette magnifique musique, celle... musique classique, musique de classe, musique des cimes, musique des élites, avec laquelle nous avons essayé aujourd'hui encore de vous réconcilier, chers auditeurs. C'était Maurice Le Vaubien, reportage de Gaylor Van Vimersch, au secours de Maurice Lévy, le patron de Publicis. Merci à Romain Altman, Pascal Lefebvre, Éric Dimer de la CGT, merci à Michelune, employé à Publicis depuis 34 ans avec ses 2800 euros chaque mois. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur le site là-bas.org. Et puis on peut se retrouver aussi sur notre page Facebook, la page Facebook de Là-bas si j'y suis. Lundi, nous partons pour la Libye. Libye, l'espoir et le chaos. On a hésité, on ne sait pas comment, quel sera le titre exact de cette série. Ce sera Libye, l'espoir et le chaos, ou le Libye, les armes et les urnes. C'est un peu tout ça en ce moment. La Libye, l'espoir, le chaos, les armes et les urnes, puisque bientôt, le 7 juillet, les Libyens vont voter. Donc on part lundi pour ce pays. À la technique aujourd'hui, Cédric Lalanne et Ronan Mahé, Bertrand Chompton et Franck Aderer ont réalisé cette émission, assistés de Marina Touyez et Grégory Salomonovitch. Attends vos messages dans le répondeur de la basse JSU au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.
Je suis greffé du rein, sans doute grâce à quelqu'un qui était en faveur du don de ses organes et qui l'avait dit à ses proches, sinon je serais peut-être pas là pour en parler. Bah, à mon avis, don d'organes, si on est pour et qu'on ne le dit pas, c'est peut-être une chance de greffe qui se perd. Donc si on est pour, mieux vaut le dire, je confirme.
Don d'organes, pour sauver des vies, il faut l'avoir dit. Plus d'informations sur dondorgane.fr, un site de l'Agence de la biomédecine.
Vivez la 43e édition de la solitaire du Figaro, Éric Bompard-Cachemire, du 24 juin au 15 juillet, de Paimpol à Cherbourg-Octeville, via Riron en Espagne et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ils seront plus de 35 skippers à rêver d'accrocher leur nom au palmarès de l'arène des courses en solitaire. Plus de 1430 000 nautiques de sport et d'émotion à vivre sur les antennes de France Info et France Bleu.
Et voilà, il est pile poil 16h sur France Inter. Bonne fin de semaine à tous. On se retrouve à 15h lundi en route pour la Libye. Je vous laisse pour les infos avec Nicolas Teillard. Salut!
Le gouvernement encore partagé sur le montant du coup de pouce au SMIC promis par François Hollande. Alors que le quotidien économique Les Échos avançait ce matin l'hypothèse d'une hausse de 2%, Matignon n'a pas donné de chiffres, évoquant seulement la piste d'une hausse raisonnable. Entre soutien aux bas salaires et préservation de la compétitivité des entreprises, le gouvernement cherche le bon dosage. Et les arbitrages ne sont pas rendus, a déclaré la porte-parole Najat Vallaud-Belkacem. La décision finale est attendue mardi. L'inquiétude des salariés des laboratoires Lundberg, le groupe pharmaceutique danois, a annoncé son intention de supprimer 600 postes en Europe. Et les syndicats redoutent que ce plan social concerne 200 salariés en France. Selon l'UNSA, syndicat majoritaire, l'annonce pourrait intervenir lors du comité d'entreprise prévu lundi matin et porterait donc sur 200 licenciements secs concernant principalement le personnel administratif. Social encore avec la mise en vente cet après-midi de la totalité du groupe Doux, annonce cet après-midi de l'administrateur judiciaire, le leader européen de la volaille dont le plan de redressement a échoué, menaçant l'avenir de plus de 3400 salariés. Ils ont obtenu un nombre historique de députés dimanche dernier, mais les écologistes sont pourtant dans la tourmente. À la veille de la passation de pouvoir entre Cécile Duflot et Pascal Durand à la tête d'Europe Écologie Les Verts, l'ambiance est loin d'être idyllique dans le parti. Faible score d'Eva Joly, dissension sur l'accord avec le PS, absence d'autonomie au gouvernement. Les contrariétés s'accumulent et ce ne sont pas les critiques acerbes de Daniel Cohn-Bendit qui vont réchauffer l'ambiance. Dans un entretien à Libération ce matin, le député européen déplore l'image détestable renvoyée par le mouvement et dénonce l'arrivisme de ses dirigeants symbolisés selon lui par la course aux Marocains ministériels. Pendant ce temps-là, François Hollande est à Rome. Le chef de l'État participe à un mini-sommet européen destiné à préparer le vrai sommet de la fin de la semaine prochaine. Autour de la table, la chancelière Merkel et les chefs de gouvernement italiens et espagnols. L'Espagne qui au passage devrait faire ce lundi sa demande d'aide officielle à la zone euro pour remédier aux difficultés de ses banques. Et puis si la Grèce est désormais pourvue d'un gouvernement, la santé de ses ministres semble à l'unisson de celle des finances du pays. Cet après-midi, on a appris que le nouveau Premier ministre, Anthony Samaras, devrait subir demain une opération à l'œil. Quelques minutes plus tard, c'est le fraîchement nommé ministre des Finances qui était hospitalisé, victime d'un malaise. tout sauf l'asile. C'est à peu de choses près ce qu'ont réclamé ce matin dans leur plaidoirie les avocats d'Anders Behring Breivik devant le tribunal d'Oslo en Norvège. L'auteur de la tuerie d'Utøya l'été dernier y est jugé depuis plusieurs semaines pour le meurtre de 77 personnes. Et hier, c'est l'internement psychiatrique qui a été requis à son encontre, le parquet ne l'estimant pas pénalement responsable de ses actes. Au dernier jour de son procès, l'extrémiste de droite n'a pas voulu reconnaître sa culpabilité, répétant avoir agi pour protéger les Norvégiens de souche contre l'islam et le multiculturalisme. Le verdict sera rendu le 24 août prochain. On revient en France pour terminer avec cette nouvelle disparition à Bordeaux, la sixième en moins d'un an sur les bords de la Garonne. Une série noire qui interpelle les autorités et inquiète la population. C'est un homme d'une trentaine d'années qui a disparu la nuit dernière. Les recherches n'ont rien donné pour l'instant. 16h03 sur France Inter, Didier Varro, tout de suite, quand la musique donne, avec un duo charmant en sa compagnie, Camille et Mina Tindel.
Quand la musique donne,
rock, musique électro, techno,
chansons, rap,
la musique d'aujourd'hui, en fait, de la musique moderne.
La musique, elle est juste là, comment? C'est une vibration.
Didier Varro.
Elle est née à Paris, fille d'une mère enseignante et d'un père musicien, baryton et indigné. Elle est née à Paris, dans une famille musicienne où son papa, comme ses grands-parents, chantait tout le temps. Elle a réussi à faire passer son premier album, Le Sac des Filles, pour un stage de fin d'études d'entreprise. Elle a eu une enfance nomade, Andalousie, Caroline du Nord, New York. Elle n'oubliera jamais un concert de Ray Charles, découvert à l'âge de 7 ans dans les arènes de Nîmes. Elle a grandi à l'ombre d'un piano qui avait appartenu à Charles Gounod. Elle dit que le droit de chanter dans la rue devrait être inscrit dans la Constitution. Elle a choisi son nom d'artiste en hommage au personnage de Michael Caine dans le film huis clos, Le Limier. Elle est endurante et le sait depuis qu'elle a supporté les classes préparatoires de Cagnes. Elle sait que les choses se méritent, assume son côté besogneux et son caractère minutieux. Elle possède une voix passe-muraille. Elle non plus. Elle a la sensation d'être en contact avec Nougaro, a suivi les ateliers vocaux avec l'improvisatrice Julie Tippett-Driscoll, se met en joie et en voix avec le Wanna Be Starting Something de Michael Jackson. Elle est douée pour les reprises, qu'elles soient de Nico, Jackson Brown ou des Ronettes, qui l'aident aussi sûrement à s'identifier. Elle a toujours pensé qu'il est plus facile de parler d'un amour universel que de dire « je t'aime » à quelqu'un. Et aujourd'hui, finalement, elle chante « que je t'aime ». Elle chante pour se soigner de quelque chose et sa voix est sa meilleure dame de compagnie. Elle s'appelle Camille. Elle s'appelle Mina Tindel. Deux femmes qui chantent pour trois initiales. MTC. Non, il ne s'agit pas cet après-midi de médecine traditionnelle chinoise, ni du Mondial Tourisme Concept, encore moins de la Meat Trading Company. Non, c'est bien Mina Tindel qui rencontre Camille sur France Inter, notre drôle d'endroit pour une rencontre. Bonjour Camille.
Bonjour.
Bonjour Mina Tindel.
Bonjour.
Vous vous connaissez un tout petit peu, puisque je crois que Mina Tindel a fait la première partie de Camille à Londres, c'est ça?
Oui, je ne sais pas si c'est la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était il y a un mois.
Alors, je crois qu'on s'était croisés, que j'enregistrais le fil au studio du garage, c'est possible ça? C'est ça, c'est le garage?
Oui, alors c'était pas le fil, parce que c'était plus tard.
Parce que j'ai enregistré les basses là-bas, alors je sais pas ce que je faisais là. J'allais peut-être voir un pote, Sébastien Martel, qui enregistrait, enfin je sais plus. Et donc je t'ai croisé là, et on s'est croisé aussi chez mon ex-éditrice Marianne Dudouy de chez Blonde Musique,
ouais.
Avec qui t'as travaillé.
Oui, moi j'en entends parler depuis très longtemps parce que je pense qu'on est effectivement c'est une personne assez importante dans nos deux vies, donc
ouais.
C'est marrant.
Ouais, une femme formidable.
Alors vous vous connaissez un petit peu, mais le rituel de cette émission, on s'y plie quand même. Une question de Mina Tindel à Camille cet après-midi, en ce lendemain de la fête de la musique.
Alors non, moi j'avais une question parce que j'ai réfléchi hier soir. Je t'ai vu trois fois en concert, à chaque fois des choses très différentes. Je t'avais vu une fois avec les Pascals. À la création de
aux Eurocaennes.
Il y a cinq ans, à peu près. Une autre fois Bouffe du Nord, donc dans une configuration
Martel,
très différente.
En duo, ouais. Et solo et duo avec Sébastien Martel, guitariste émérite.
Et là, la troisième fois à Londres, donc avec le nouveau spectacle. Et sur le côté spectaculaire, justement, et mis en scène, moi je me demandais comment tu gères ce qui est vraiment aussi intime dans le fait d'écrire une chanson ou de un moment d'arriver sur scène et d'être un peu à nu avec le côté mis en scène et spectaculaire de...
Tu étais comme si c'était...
Comme c'était incompatible, parce que peut-être pour moi ça allait pour toi, c'est aujourd'hui, mais ça allait peut-être pas du tout en fait, mais je me demandais...
Non, moi je crois que ça doit dépendre des gens, mais moi la mise en scène est une manière un moyen d'expression. On passe de la 2D à la 3D, quoi. C'est-à-dire que l'enregistrement audio, maintenant, même me paraît réducteur, en fait. On met en espace un univers. Et ce qui est assez intéressant dans le monde de la pop, c'est qu'avec les mêmes chansons, selon le moment où je me trouve, eh bien, la mise en scène de ces chansons, même si je les ai chantées dans une autre mise en scène, va me permettre de donner un nouvel éclairage qui est comme l'éclairage de ma vie actuelle et de mes envies actuelles, mes envies artistiques actuelles. Donc une chanson va tout à coup renaître, revivre autrement. Et selon ce dont tu parles, la mise en scène, oui, je pense qu'on va les vivre de manière différente. Et voilà, c'est ça, c'est le spectacle vivant. C'est-à-dire que c'est même pas comme le théâtre où une tournée ressemblera à la tournée précédente. Et ce que les gens voient, par exemple, maintenant sur scène, eh ben, ils ne le rêveront pas dans 4 ans. Parce que je serai une autre femme, parce que... Voilà.
Est-ce que tu aurais une question, ouais, Camille?
Alors, c'est vachement moins artistique, hein. Enfin, peut-être que ça l'est. Quel est ton signe astrologique?
La dernière fois avec Benjamin Biolay, c'était « Est-ce que tu fais du sport ?» On va avoir un best-of des questions de Camille. Quel est ton signe astrologique?
Bélier. Bélier ascendant balance.
Et alors?
Ah, balance. La balance, d'accord. Le bélier, j'aurais pas deviné. J'aurais pensé que c'était plutôt balance ascendant bélier. Enfin,
tiens donc.
Non, j'aurais pensé signe d'air en dominante.
Pourquoi?
Je sais pas, c'est intuitif, c'est ce que j'entends dans la musique, dans...
Moi j'adore parce qu'à chaque fois j'ai plein d'amis comme ça et moi je m'y intéresse pas du tout, mais à chaque fois j'adore écouter quand on m'en parle, je dis alors pourquoi...
C'est une manière de...